Je n'ai pas besoin de passer du temps dans la connaissance mutuelle. Soit vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me présenter non plus. Et j'ai eu la joie de connaître les deux jeunes qui sont des deux églises que je connais bien. J'ai choisi quatre textes qui me paraissent un peu difficiles pour le leadership, parce que j'ai parlé trop souvent des textes faciles et agréables et qui sont faciles à interpréter. Et de temps en temps, on est obligé, surtout pour le texte numéro 3, la présentation numéro 3, de choisir les textes que les gens n'utilisent pas parce qu'ils sont assez critiques, négatifs. Mais c'est dans la Bible. Alors, comme on n'étudie pas souvent, on oublie des réalités qui sont très belles dans ces textes. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais m'inspirer des quatre textes. Un est très beau, Malachi fait partie d'un des meilleurs textes pour la théologie pastorale. Si vous étudiez la théologie, probablement vous allez commencer par ce texte-là. Parce que je dois vous dire dès le départ, et vous allez voir lors de la présentation, qu'en Israël, il y avait trois pouvoirs. En général, on dit deux pouvoirs, le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Mais ce pouvoir civil et religieux ne correspondait pas toujours à la volonté divine. C'est la raison pour laquelle on peut parler de prêtre comme le bienvenue. Donc, une petite parenthèse, bienvenue à Corinne. C'est ça? Karine ou Corinne? Karine. Et Pasteur Daniel Latchman, le président de la fédération. Je suis en train de parler du texte de Malachi au chapitre 2 et je fais l'introduction en disant que c'est un des plus beaux textes qu'on utilise pour la théologie pastorale et je voulais expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte. Dans l'Ancien Testament, on parle de trois pouvoirs, le pouvoir religieux, le pouvoir civil et le pouvoir divin. Alors le pouvoir divin, c'est juste pour balancer les autres pouvoirs. Parce que de temps en temps, le pouvoir religieux était très loin de Dieu. Et le pouvoir civil encore plus. Alors c'est la raison pour laquelle le prêtre qui était le représentant du pouvoir religieux et le sage qui était le représentant du pouvoir civil avait à ses côtés le prophète qui était le représentant du pouvoir divin. Et c'est la raison pour laquelle Nathan vient auprès du roi et il dit, c'est toi qui es cet homme-là. On n'aime pas trop, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, Jérémie, on va mentionner ça juste brièvement, dit dans, je crois, 18-18, Jérémie 18-18, il dit, ces trois choses, ces trois catégories de personnes, vont pas disparaître, parce que c'est comme ça. C'est la réalité du peuple d'Israël. Comme vous avez aux États-Unis le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, je ne sais pas, toutes sortes de pouvoirs, ils se combinent ensemble et ils ne peuvent pas l'un sans l'autre, parce qu'ils se contrôlent mutuellement. Ainsi, vous pouvez voir le prophète, le prêtre, le sage, qui travaillent ensemble pour le bien du peuple de Dieu. Alors, j'ai choisi maintenant le texte qui parle du profil d'un prêtre, parce qu'il s'agit d'un pouvoir religieux. Et alors je commence, par cette réalité que pour moi, le dernier livre de la Bible est un des plus beaux résumés ou conclusions de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas mieux choisir. Alors, on commence. Est-ce qu'il y a un livre dans la Bible qui commence avec « Je t'aime » C'est Malachi. Dieu dit, c'est le commencement, le premier texte, le verset 2, parce que le premier verset c'est pour présenter Malachi. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et les gens disent, en quoi est-ce que tu nous aimes? Autrement dit, Dieu dit, « Je vous ai aimé, malheureusement vous ne comprenez pas que je vous aime. » Donc, le commencement parle que l'amour a le droit à la prédestination. Et c'est très fort, des fois très surprenant aussi. Mais Dieu dit, je vous ai aimé, je vous aime, je veux que vous soyez mon peuple. Et c'est le point de départ. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai choisi. J'aimais Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc on commence avec des déclarations qui sont très fortes, qui surprennent, mais en même temps qui posent la base pour tout le livre. Je n'ai pas le temps, si une autre fois j'ai l'occasion de parler de l'amour et de la prédestination, je le ferai très rapidement, juste pour dire que ma compréhension, qu'il y avait deux prédestinations, je ne suis pas un calviniste, je ne crois pas à double prédestination, mais je crois à deux prédestinations. Il y a la prédestination pour le diable, Matthieu 25, et ses anges, parce que Dieu dit à ceux qui sont à sa gauche, venez, vous allez directement dans l'enfer, préparé pour le Satan et ses anges, le diable et ses anges. Ça, c'est une prédestination. Une deuxième prédestination, c'est la prédestination de Jésus-Christ comme un agneau sans tache. Et 1 Pierre 1 nous rappelle, résume plein de choses de la Bible, et il dit, cet agneau a été prédestiné pour notre salut. On ne se sauve pas avec l'argent, de l'or, etc. Mais on se sauve par, on est sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été prédestiné comme agneau pascal. Et ainsi de suite. Alors vous connaissez qu'il y a une prédestination à travers Jésus-Christ de nous tous pour le salut. C'est comme ça. Donc Dieu ne prédestine pas pour l'enfer. Il sait, si tu es tellement attaché au diable, à ses anges, si tu es l'incarnation des désirs mauvais, etc., 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 je ne peux rien faire pour toi parce que le ciel, ça sera tellement ennuyeux, tellement... Voilà, ça sera un affaire, exactement. Donc, on commence avec cette histoire de l'amour et de la prédestination. Le deuxième, c'est l'adoration. C'est très beau quand vous commencez, quand vous parlez de la manière comment on adore Dieu avec dignité. Et la troisième chose, c'est le ministère des leaders. Et c'est ce que j'aimerais étudier aujourd'hui avec vous. Juste après, vous pouvez voir quels sont les autres sujets. Je n'ai pas le temps de parler de la structure, mais je vous juste mentionne le jugement. Ce texte, Malachie 3, 1 à 6, était l'un des sujets les plus souvent utilisés par nos pionniers. Le sujet au top niveau, numéro 1, à la liste des sermons, c'est le message des trois anges. Donc 12, 13 et 14 du livre d'Apocalypse, c'est ce qui était utilisé le plus souvent. Deuxième niveau, c'était Daniel 2, 7, 8 et 9, avec une, attention particulière sur Daniel 8, 14. Ça a été prêché très, 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 très souvent. J'ai eu l'occasion pour un devoir, quand j'étais à New Braunfels, de prendre toutes les prédications. Je me suis rendu compte de nos pionniers, je me suis rendu compte qu'au troisième niveau, après Daniel et Apocalypse, ce qui est étonnant, vient ce texte. 3, 1 à 6. Parce qu'il rappelle nos pionniers quelle est leur vocation. C'est-à-dire, il les rappelle qu'ils sont les messagers. À la manière de Jean le Baptiste, eux, ils deviennent ceux qui vont préparer le chemin pour le retour de Jésus. Ensuite, on parle de la gestion chrétienne de la vie. Ensuite, on parle de concept philosophique de l'utilitarisme, ce que j'appelle, parce que l'utilitarisme se moque un tout petit peu de la religion. Mais ici, on se rend compte quelle est la vraie utilité de servir Dieu. Ensuite, vous avez le retour de Jésus et vous avez la reconsécration Moïse et Élie, père et les enfants. Magnifique comme livre. Essayons de voir maintenant les caractéristiques des leaders selon le cœur de Dieu. Comme je vous ai dit, très brièvement, il y avait le pouvoir divin, prophète, pouvoir religieux, sacrificateur, pouvoir civil, les sages. Voilà ici Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Donc, un message très négatif en ce qui concerne le ministère prophétique de Jérémie, mais rappelant la structure, le leadership du peuple d'Israël. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre.
Voilà. Puisque ici c'est le leadership, je voudrais aimer vous signaler une chose qui me pèse un peu. Il y a un certain nombre de gens qui se sont levés ces derniers temps et qui se sont mis à enseigner, mais l'enseignement est très influencé par, je pense pouvoir dire un peu les baptistes, à vous voyez ça un peu globalement. On revient à ce que tu as dit tout à l'heure, dans le mot, il y avait « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü
yeah. ».
Dans ta présentation, puisque c'était pas ça ce matin, tu es allé vite. Mais ceux qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu sont attentifs à un mot qu'ils comprennent avec sa valeur d'aujourd'hui en français. Donc, ouais. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, hein? Et alors, toi-même, on dirait que tu as senti le devoir de leur faire attention. Je ne parle pas de Palestine. Donc, il y a, entre autres, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est venu, Mehdi, c'est le nom. Mais il y a d'autres avec lui qui ont besoin d'être corrigés et d'apprendre. Je crois que dans vous, en tant que vous êtes intéressé dans le côté du leadership, le leader a besoin aussi d'outils. Et d'outils de savoir
c'est ça.
Comment interpréter la parole de Dieu.
Ça sera surtout ma quatrième présentation, si je ne me trompe pas. Voilà.
J'aimerais que vous soyez attentif à cet aspect du leadership.
Ouais.
Car Internet est en train d'empoisonner beaucoup.
C'est ça.
Parce que c'est trop, il y a trop de confusion sur Internet.
Mais merci Daniel, et je vous j'invite à prier pour le leadership, parce qu'on étudie le leadership. Priez pour le leadership de la fédération. Ils ont besoin de votre soutien, de vos prières, de votre jeûne. Je vais parler aussi un peu de cela, vous allez voir. Et je suis sûr qu'avec le soutien des jeunes, beaucoup de choses changeront positivement. Et il est bon de partir d'ici avec la certitude que tu es soutenu. On prie.
Le groupe de jeunes, on a entendu parler de la personne qui parle de ce genre de choses, mais il ne fait pas partie de l'équipe de jeunes. On ne suit pas ces instructions parce que c'est contraire à ce qu'on a appris par la parole de Dieu.
Voilà.
On suit seulement ça. Ma préoccupation n'est pas qu'il soit parti. Ma préoccupation, c'est que vous sentiez plus que jamais ce besoin d'être fort dans l'art d'interpréter la parole de Dieu, dans les méthodes, pour ramener d'autres jeunes qui sont vite séduits par un texte sur Internet. Et plus l'explication est merveilleuse,
très bien, merci, merci Daniel. Alors, le texte dit, le commence, il y a un commandement, c'est ce que je dis, maintenant à vous cet ordre sacrificateur. C'est le chapitre 2 du livre de Malachie. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on est leader. C'est un commandement. Mitzvah, en original, ça se dit mitzvah, commandement. Presque on pourrait dire de la même valeur comme les commandements. Donc si on veut être leader, si on veut être pasteur, on doit accepter qu'il y a un commandement. Et on ne peut pas échapper de passer par là. Donc il y a des choses indispensables, non négociables pour des leaders du peuple de Dieu. Et vous allez voir quelles sont les choses indispensables. Donc je suis Malachi 2, si vous voulez. Le vrai leader écoute premièrement Dieu. Le texte dit, si vous n'écoutez pas, vous savez que le plus grand problème du peuple d'Israël était le manque d'écoute. Dieu dit que le problème d'exil, c'est le problème de manque d'écoute. Si vous vous rappelez de ce qui se trouve sur toutes les portes des Juifs, même aujourd'hui, c'est, vous vous rappelez de la petite pièce qu'on trouve un peu partout, là-dedans ne se trouvent pas des commandements, mais se trouve le texte de Deutéronome au chapitre 6 qui dit « Shema Israël », c'est-à-dire « Écoute Israël ». L'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu, etc. Dieu est un, c'est ce qu'il dit. Mais le texte continue et c'est ce qui se trouve dans ce petit, comment dirais-je, compartiment sur la porte de chaque juif. C'est marqué « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force » et toutes ces lois, tu les répéteras, tu enseigneras les autres. C'est ce qui se trouve donc comme la déclaration de foi de l'ancien Israël, donc de l'Ancien Testament. Et la première chose, si vous n'écoutez pas, donc, le vrai leader, deuxième aspect, le vrai leader a comme premier souci de donner gloire à Dieu. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. Donc c'est la suite, c'est dit très, très clairement. Un leader ne travaille pas pour sa propre gloire, pour la gloire de son responsable. Par exemple, je suis secrétaire, je ne travaille ni pour ma gloire, ni pour la gloire de mon président, même si je travaille avec un esprit de comment dirais-je, de communauté fraternelle. Nous sommes tous membres d'une seule équipe, il y a la solidarité, on prie les uns pour les autres, on se consulte régulièrement. Lui, il est le premier, j'essaye de lui donner la place la plus importante chaque fois dans toutes mes déclarations. Partout où je vais, j'essaye de consolider son leadership. Mais malgré tout, je ne travaille pas pour la gloire des hommes. Parce que un leader doit toujours éviter le piège de la flatterie. Est-ce que je peux dire comme ça? Parce que quand on est en position de leadership, on se trouve devant 100 personnes, 1000, 2000 personnes, et puis on commence à penser qu'on est important. Mais on n'est pas important. Nous sommes tous importants. Mais au-delà de cela, la seule chose qui est importante, c'est de donner gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié à travers toutes les réalisations que nous faisons. Donc, c'est ça qu'il faut prendre à cœur. La troisième chose, si vous ne faites pas ça, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions, etc. Je dis, le mauvais comportement des leaders entraîne la malédiction sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire, l'action néfaste des leaders est quelque chose qui va influencer d'une manière significative même le peuple qui malheureusement n'a pas demandé le malheur. Mais le malheur provient de l'agissement inadapté des leaders. Donc j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur de rendre gloire à Dieu. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Et vous allez voir quel est l'ordre, l'essence même de l'ordre. Il vient juste après. Vous pouvez vous imaginer le concept de sacrifice et des restes des sacrifices utilisés comme image de ce qui sera l'avenir du peuple et des leaders. Incroyable. Est-ce que je peux encore très brièvement dire que probablement les deux choses les plus importantes dans un culte d'adoration sont la prière, ce qu'on appelle souvent la prière pastorale, et la bénédiction, c'est-à-dire de nouveau la prière, parce qu'on s'adresse à Dieu. Et je sais qu'en tant que pasteur, j'aime beaucoup, quand je quitte une maison, quand j'ai visité quelqu'un, ou quand je suis à la, dans une église, avoir le privilège de prier et de bénir les gens. C'est la raison pour laquelle j'aime bien quand, vous savez, dans les grandes églises, on essaie de donner tout à tout le monde, un tout petit peu. Mais je conseillerais vivement à ce que celui qui proclame la parole de Dieu puisse aussi prononcer la bénédiction. C'est que, quelque part, la bénédiction étant l'un des actes les plus solennels de l'adoration, il est important à ce que celui qui le fait puisse le faire avec autorité et puisse le faire pleinement inspiré avec la parole qu'il a prononcée. Donc c'est à peu près comme ça. Mais c'est très intéressant que les moments les plus solennels, on vient à l'église et on est tout content de partir à la maison avec une bénédiction. Mais Dieu dit, ben vous prononcez les bénédictions, mais moi je vais les tourner en malédiction. Ce que vous faites de plus solennel, l'essence même de votre ministère, va juste produire les résultats opposés, parce que vous n'avez pas à cœur d'adorer Dieu et de lui donner gloire. Alors on commence à se rapprocher de l'ordre. Alors maintenant je vous parle de cet aspect de l'alliance. Je dis, Dieu a établi une alliance avec des leaders de son peuple, l'alliance avec la tribu de Lévi. Cette alliance était conditionnelle. Elle était temporaire, si on peut dire, parce qu'on sait que l'alliance, selon l'ordre de Lévi, a duré jusqu'à la croix. Mais par la suite, nous avons une alliance beaucoup plus supérieure avec Jésus-Christ, qui devient le garant de cette alliance même, parce qu'il s'est sacrifié lui-même selon, et il exerce son ministère selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon l'ordre de Lévi. Alors il dit, « Afin que mon alliance avec Lévi subsiste », ce qui voudrait dire, ce peut très bien qu'elle ne subsiste pas. Si vous ne faites pas comme cela est convenu, il n'y aura pas de ministère de Lévi. Et c'est ce qui s'est produit pendant 70 ans de l'exil. On pourrait dire que le grand choc qui est parvenu, qui est bien exprimé à travers le livre des Lamentations. Par exemple, le livre des Lamentations a 5 chapitres, 5 prières différentes ou 5 poèmes différents. Les poèmes en rythme de 3+2, ce qui voudrait dire soit la poésie d'amour ou la poésie de lamentation. C'est le même rythme cassé, ce qu'on a dit. En général, la poésie, les psaumes sont 3+3, 4+4. Vous comprenez de quoi je parle. Mais quand vous parlez de l'amour, ou vous parlez de la misère, de la tristesse, comme c'est le cas dans les lamentations, eh bien, vous avez un rythme cassé. 3 syllabes, 2 syllabes. Toujours comme ça. Et alors, ce livre commence au chapitre 1. Et quoi? Chapitre 2 commence. Et quoi? Chapitre 4 commence. Et quoi? L'étonnement. Tout ce qui s'est produit avec la ville de Jérusalem a dépassé l'entendement des gens. Tout a été détruit. Ils ont dit, ben maintenant, qu'est-ce qui reste? Si Dieu a dit que c'est ça la place où il veut être parmi les hommes, et il a permis à ce que Jérusalem disparaisse, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment étonnant, super étonnant. Et c'est ce qui explique un peu ce que Dieu dit, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Cette alliance n'est pas sûre de durer. le moment de l'ordre vient maintenant et vous allez comprendre pourquoi. L'ordre de Dieu. La première tâche des leaders est de contribuer à la paix du peuple. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Shalom. Je me rappelle lorsque j'étais dans une situation très difficile parmi le corps pastoral en France. Nous avons eu quelques tensions et on était environ 60 pasteurs. Et l'ancien président, l'ex-président, était très, comment dirais-je, triste du comportement des pasteurs. Et il s'est levé et il a dit, on m'a enseigné quand j'ai fait la théologie que le devoir numéro un des pasteurs, c'est de travailler à la paix pour sa communauté. Et on m'a rajouté, et c'est ce que j'aimerais bien souligner, que la paix ne peut pas s'obtenir dans l'éloignement du Seigneur. C'est pas possible. Donc, comme dit Ésaïe, je crois, 48, 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix, shalom, serait... » Donc, quand on parle ici, une alliance de paix, cela sous-entend que la paix ne peut pas s'obtenir dans l'éloignement de Dieu. Et j'aimais beaucoup l'intervention de ce frère, de ce pasteur, qui nous a aidé à comprendre que vraiment un leader doit contribuer à la paix, doit même se battre si c'est nécessaire pour la paix, mais pas la paix des hommes. La paix qui provient de l'attachement à celui qui est à l'origine de l'alliance. Donc, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Et vous allez voir la suite. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Alors j'aimerais vous rappeler un autre texte pour que vous puissiez saisir. Ici on dit pour qu'il me craigne est lié avec l'idée de l'alliance de vie et de paix. Dans le psaume 130, connu comme un psaume très beau et qui est appelé en latin De Profundis, et il y a beaucoup de compositeurs très connus qui ont utilisé ce texte comme base, dit à peu près ceci: des profondeurs je prie vers toi, et ensuite dit, si tu regardais à des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. C'est à peu près la même idée. On ne craint pas Dieu parce qu'il est sévère. On ne craint pas Dieu parce qu'il est juge. On ne craint pas Dieu parce qu'il est au ciel et nous sommes sur la terre. On craint Dieu, et c'est presque tout le message de l'Ancien Testament, les 13 attributs de Dieu qui se trouvent et qui font partie de la confession de foi du peuple d'Israël, disent entre autres que l'une des caractéristiques essentielles de Dieu, que c'est un Dieu de miséricorde. Et alors, Dieu a voulu donner à son peuple des conditions de qualité, les conditions de vie, et de paix. Et comme résultat, ou si vous voulez, comme conséquence, il espérait que les gens auraient la crainte de son nom. Ce qui voudrait dire que la communion étroite avec Dieu, la proximité avec Dieu, détermine la qualité de vie dans l'Église. Ellen White dit ça très joliment, dessiner un cercle, j'ai déjà oublié tous les détails en français, et mettez des lignes qui vont vers le centre, plus les lignes sont proches du centre, plus elles sont proches les unes des autres. C'est un peu comme ça. La crainte de l'Éternel va venir lorsque nous acceptons de faire partie de son alliance de vie et de paix. Et le texte dit très bien, et il a tremblé devant mon nom. C'est un peu de chiasme, parce qu'il y a craindre et trembler, mais c'est comme ça. Les vrais leaders parlent toujours la vérité. La loi de la vérité était dans sa bouche. Donc un prêtre, un pasteur, un leader religieux, parce qu'on peut le prendre sans aucune difficulté, sans trahir le texte, on peut dire un leader religieux parle toujours la vérité. Des fois ça coûte cher, et je peux parler par expérience personnelle, mais si je ne disais pas cela, je mentirais. La Bible est très claire. On dit, la loi de la vérité était dans sa bouche. J'aimerais souligner le fait que, premièrement, il s'agit de la loi. Donc l'essentiel, et j'aime beaucoup le message de l'Église à laquelle j'appartiens, nous faisons la synthèse de qualité incroyable de tout le message de la Bible. Le message de l'Ancien Testament dirigeait tout vers la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Et donc la loi avait quand même une place importante. Et le Nouveau Testament dirigeait tout vers Golgotha, vers Jésus-Christ, vers la grâce. Mais la grâce n'est pas venue pour contredire ou diminuer l'importance de la loi. Ce qui voudrait dire que et la loi et la grâce se retrouvent en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas seulement, on ne dit pas « la vérité était dans sa bouche ». Vous comprenez ? C'est pas comme ça. Mais on dit « la loi de la vérité était dans sa bouche ». Donc, un leader saura bien quel est le chemin. Parce que quand on dit la loi, on pense Torah. On pense à la voie. Et cette voie est la voie de la vérité. Ce qui voudrait dire, toute la Bible est pour nous un chemin de direction pour exercer notre leadership. On ne peut pas exercer le leadership si on ne suit pas le chemin, si vous voulez, ou la loi de la vérité. C'est très clair. Ensuite, les vrais leaders sont éloignés de l'iniquité. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. On n'aime pas trop parler de cet aspect-là, parce que on considère que c'est une affaire privée de chacun. Et je suis d'accord que nous devons personnellement régler les choses avec Dieu, mais vous savez, les vrais leaders ne peuvent pas se cacher. Il n'y a pas... Tout est transparent. Et ce qui détruira le plus évidemment votre leadership, c'est lorsque vos actes ne suivent pas vos paroles. Comme il y a la parole célèbre, ce que tu dis, ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Un peu comme ça. Donc, tu fais un certain nombre de choses et tu veux être leader, eh bien, n'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Ça nous rappelle un peu psaume 1 et beaucoup d'autres textes. Psaume même 24, psaume 15 et beaucoup d'autres textes importants. Quel est le profil des vrais leaders? Le point numéro 9, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Un vrai leader marche avec Dieu. Un vrai leader marche avec Dieu. Un peu l'expérience d'Enoch. Donc ce qui voudrait dire, le leadership est tellement exigeant que rencontrer le Seigneur une fois par mois ou une fois par semaine, c'est pour le rôle de leader, c'est presque ridicule. Écoute, ça ne marchera pas du tout, c'est sûr et certain. Et de faire même 3 fois par jour, ce n'est pas assez. Il faut marcher avec lui. C'est un peu le psaume 1, heureux celui qui, etc., etc., mais qui a la voix, qui suit la voix de Dieu lui-même. Les vrais leaders aident le peuple à rester pur. C'est un autre aspect qu'on n'aime pas trop souligner. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Pas seulement qu'on n'a pas trouvé de l'iniquité chez lui, mais même, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Alors quand on parle de la, comment expliquer, du concept de leadership, voilà ce que Dieu rêvait de la tribu de Lévi. C'est à peu près ça. Vous voyez, je passe des caractéristiques essentielles. Je pourrais presque m'arrêter sur chaque texte, mais vous connaissez, parce que sinon je n'arriverai pas au moins de vous donner l'image globale. Étant donné le fait que le mal est partout, il est important pour le peuple de Dieu d'avoir des leaders forts qui permettront de rester ensemble unis avec Dieu. Et pour cela, il faut absolument s'éloigner du mal. Donc on ne peut pas faire les deux choses à la fois. On ne peut pas faire ce qu'on veut et rêver d'une église unie. Comment est-ce que vous voulez parler? Et puis chacun fait selon sa tête. L'unité est le concept le plus difficile à réaliser. Et je dis, parce que je vais dire même après, j'ai toute une présentation sur l'unité, et c'est la deuxième, c'est que la croix du calvaire n'était pas nécessaire si l'unité n'était pas indispensable. La croix existe parce que Dieu pense que l'univers peut être uni. Sinon, on pouvait se débrouiller assez facilement. Je vais parler un peu de ça. Donc, l'unité est une condition sine qua non. On ne discute pas. Non négociable. Donc, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. C'est pénible, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas très facilement détourner les gens du mal. Vous devez être à leur côté, vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez tout faire pour que vous réalisiez votre mission selon la volonté de Dieu. Élément numéro 11. Les vrais leaders vont continuer toujours à se perfectionner. Car les lèvres du sacrificateur, et vous pouvez dire leader religieux, doivent garder la science. Et vous comprenez ce que ça veut dire la science. C'est-à-dire, c'est un verbe, est-ce que je peux dire permanent, de longue durée. Donc ce n'est pas un verbe ponctuel. Un aoriste nous dirait, au niveau de la grammaire, qu'on fait quelque chose une fois et c'est fait. Il n'y a pas de problème. Mais ici, on a, grammaticalement, quelque chose qu'on fait en permanence. Donc, les lèvres du sacrificateur doivent garder, doivent maintenir, doivent toujours être à un niveau de science important. Ce qui voudrait dire la recherche, c'est ce qui voudrait dire la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'esprit de prophétie, et tout ce que vous voulez qui va avec. Mais c'est quelque chose qui fait que le leader est toujours connecté, toujours nourri, lui-même avant de nourrir les autres. Le 12, les vrais leaders connaissent bien la parole de Dieu et plus particulièrement sa loi. Le texte dit, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Le prêtre, dans l'Ancien Testament, avait un rôle très important. Il était presque médecin. Vous connaissez bien? Parce que quelqu'un malade, eh bien, va chez le prêtre, il va te dire comment tu dois procéder, etc., etc. Il y a des problèmes à tous les niveaux, c'est le prêtre qui va faire. Mais ce qu'on attend essentiellement, déjà dans l'Ancien Testament, est ce qui est valable pour nous, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est-à-dire, vous savez quelle est la beauté de cette image? Quand vous lisez l'original, vous vous dites, J'aimerais bien être ça. Ça signifie que la Bible sort de notre bouche. Vous comprenez? C'est ça. Ça signifie que les cinq livres de Moïse, ça signifie que la Torah sort exactement. Quelqu'un vient chez toi, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Ceci, ceci, là. Et ce que je vais sortir, je sors les paroles de Dieu. C'est à peu près ça. Donc, nous, on s'identifie à 100%, c'est-à-dire on devient l'incarnation de la loi. La loi est incarnée en nous. C'est la seule solution pour que quelqu'un puisse réaliser cela. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Donc, il y a un certain nombre d'exigences du peuple. Et ils ont le droit d'attendre cela. Parce qu'on dit, c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Un membre, quand il vient à l'église, il ne vient pas pour entendre les histoires, même si les histoires sont belles en soi, etc. Moi, je connais plein d'histoires, et moi, je les utilise, j'essaye à bon escient, afin de ne pas diminuer la valeur de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui est important. Mais peu importe ce que je dis, si je ne dis pas Dieu, si je ne dis pas la Bible, si je ne dis pas la loi, mais les gens ont perdu le temps, et ils vont retourner à la maison, triste ou, comment dirais-je, affamé. Les histoires ne nourrissent pas, comme disent les Américains, les jokes. Et en général, quand, presque au début, quand je suis venu en 2002, j'étais un tout petit peu choqué. Presque chaque prédication que j'ai entendue, c'était une histoire assez amusante pour attirer l'attention des gens pour qu'ils écoutent. Je veux bien, mais ce qu'on attend d'un prêtre, ce qu'on attend d'un leader religieux, c'est ça. C'est qu'il puisse, vous savez, vous emmagasinez, et vous recevez, et puis vient un moment, vous rencontrez une personne lors de la visite, puis vous sortez ce qui est dedans, puis vous sortez de nouveau. Et ce qu'on sort, c'est Dieu qui parle à travers vous. Ensuite, un autre point, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Et le texte qui est dit ici, parce qu'il est Malachi. parce qu'il est ce que je dois faire, moi, en tant que prophète. C'est un peu ça. Parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel. L'autorité des vrais leaders vient de Dieu. On ne peut pas parler autrement. Même s'il y a un comité qui va se réunir pendant 3 mois avant la session, et ils vont méditer, prier, faire tout, et après ils vont dire, comme les apôtres avaient dit, lorsqu'ils pensaient qu'ils avaient trouvé la volonté de Dieu, Matthieu a été sélectionné, alors que je pense que s'ils avaient patienté un peu, Dieu se serait débrouillé pour avoir le 12e apôtre avec l'apôtre Paul. Et à cause de leur, je considère comme ça, leur impatience, on a 13 apôtres. Parce que c'est la réalité. On a Matthieu et on a Paul. Ce qui a créé énormément de problèmes à Paul pour son ministère avec les... Parce qu'ils ont dit, mais nous on a 12 apôtres, pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Donc il était en grande difficulté. Moi je pense, même s'il disait... Le Saint-Esprit et nous, nous avons choisi comme ça, hein? C'est comme ça. De temps en temps, nous pensons que c'est le comité ou l'entente qui fait l'autorité des leaders. Mais ce n'est pas ça. S'ils ne sont pas envoyés de l'Éternel, ils essayent de satisfaire les gens, mais il n'y a pas la vraie autorité de ceux qui prêchent ce que Dieu veut dire aux gens. Ça, c'est uniquement possible s'ils sont envoyés de l'Éternel. Si je peux faire une petite parenthèse, si vous voulez être envoyé de l'Éternel, passez du temps avec sa parole. Vous ne pouvez pas faire autrement. J'étais énormément surpris et presque choqué de voir un rabbin qui passait au moins toute la matinée dans la parole de Dieu. Rien qu'étant assis comme ça, j'étais étonné. Mais il ne faisait que ça. Il était tellement content. Et à un moment donné, En général, il changeait des pages, il lisait en hébreu, il changeait les pages. Et puis nous qui étions là à côté, dans la library, comme on appelle la, je sais pas, bibliothèque, on voyait, un jour il vient, toujours la même page, toujours la même page. Deux mois après, il est toujours dans la même page, il ne bouge pas. Et puis, quand on avait le cours après, on dit, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer? On se rend compte qu'en général, vous changez des pages, et puis vous lisez normalement, et puis on se rend compte que peut-être deux, trois mois déjà, vous ne bougez pas, c'est toujours la même chose. Et la phrase qu'il avait dit m'a vraiment impressionné. Il a dit, mais vous savez, je me trouve si bien ici, pourquoi irais-je ailleurs? Ça, j'aime bien chez les leaders. Ça, c'est la vraie explication de cela. Si vous voulez être envoyé de l'Éternel, familiarisez-vous avec l'Éternel. Donc, tous les, comment on appelle ça, tips pour être un bon leader ne valent rien sans ce qu'on parle ici dans le livre de Malachie. Les vrais leaders interprètent honnêtement la Bible. Mais vous vous êtes écarté de la voie, c'est-à-dire de la Torah. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous imaginez quelle misère, la misère de voir les gens qui ont une connaissance énorme de la Bible, puis ils regardent la personne, et presque inconsciemment, ils vont en faveur de celle-là, au détriment de celui-là, parce que humainement, il y a plus de connexion, on est amis, on se connaît, et si on dit exactement ce qui est dans la Bible, ils seront vexés, ils vont partir de l'église, ou je ne sais pas, etc. Et ça choque les gens. Les gens ne sont pas bêtes. Ils comprennent, ils lisent. Et surtout, ils nous écoutent. Et lorsqu'on dit une année une chose, et deux, trois ans après, une toute autre chose, parce que les personnes ont changé, on perd l'autorité incroyable, ce qui était le cas même à l'époque de, comment dirais-je, de Malachie. Et j'aimerais juste dire que, comment dirais-je, l'herméneutique, ce qu'on dit, les règles d'interprétation, ne doivent pas tellement être des règles de, comment expliquer, théologiques d'interprétation, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'herméneutique de base, mais ça doit être une honnêteté fondamentale lorsqu'on applique la Bible à la vie quotidienne. Honnêteté fondamentale. C'est pas exactement ce que j'aime, mais c'est marqué dans la Bible. C'est comme ça. Donc, l'herméneutique, c'est beaucoup plus l'honnêteté d'application dans toutes les situations. Et je crois que c'est presque vers la fin. Dieu est indispensable pour sauvegarder l'autorité des leaders. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Si Dieu est contre nous, on peut faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, si le président d'une fédération est contre vous, vous aurez énormément de mal. Moi, je connais comment c'est, et probablement Jonathan peut aussi confirmer. Donc, quand vous travaillez, travaillez toujours comme une équipe. Mais imaginez que si vous avez le président d'une fédération contre vous, et ça devient tellement difficile, combien ça doit être difficile lorsque le Dieu de l'univers dit, écoute, ça marche pas, je ne peux plus t'utiliser. Et le résultat final, c'est que un leader peut avoir des moments intenses de joie dans son service, mais cela peut être juste un pas jusqu'à être méprisable si on oublie nos origines, si on oublie celui qui nous a appelés, si on oublie l'alliance qu'on avait faite avec Dieu. Et voilà.